musique.
Caravana la maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le
soleil.
Vive
les oreilles.
Vive.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques singulières et autres formes d'expression curieuses. Et il s'agit de ça aujourd'hui, de formes d'expression curieuses, puisque nous allons parler du slasher, un genre, un sous-genre cinématographique. Nous sommes avec Yves-Marie Mahé et Derek Wolfenden qui vont animer l'émission et leur invité. Il s'agit de Vincent Maya pour son livre « À couteau tiré, l'histoire du slasher movie » aux éditions... Merde. Je vois pas l'édition, bordel de merde. C'est quoi ça? Il n'y a pas d'édition. Qu'est-ce qu'il prend la tête ça, hey, franchement. À couteau tiré l'histoire du Sacha Movie. Bah, je fais d'imprimer, machin. Putain, il n'y a pas d'éditeur. Oh, le galérien. Oh, le galérien. Maya, Vincent, mais il n'y a pas d'édition. Putain. Bon. Voilà. À vous, les gars.
Si tu pouvais nous parler des différentes musiques de slasher qui t'ont marqué, que tu trouves particulièrement réussies.
La plus connue et la plus intéressante, qui est la peut-être la plus réussie aussi pour cette raison-là, c'est Halloween.
Par lequel on a commencé l'émission.
Enfin, de John Carpenter, en plus c'est lui qui l'a composé. Et pourquoi pour moi c'est la meilleure, parce que c'est la plus expérimentale aussi dans le genre. Qu'est-ce que c'est que cette musique répétitive, justement, qui joue aussi, comme s'il mettait en musique son propre métronome avant de jouer, quoi. C'est assez étrange, et c'est aussi un rapport au temps. C'est vraiment la faux, il n'y a même pas besoin de montrer de traiter le tueur comme la mort façon le septième saut. Juste sa rythmique, sa dynamique, on comprend que c'est un sablier qui s'écoule. Et je trouve qu'à tout niveau, le son est extraordinaire, d'autant plus qu'Halloween joue vachement sur le suggéré. Donc la bande-son répétitive, etc., le genre en lui-même répétitif, enfin là il pose tout en fait, quoi. Mais vraiment tout simplement il pose tout, quoi. Et en plus, il va introduire même au niveau expérimental, voilà, des musiques un peu électro, etc., quoi.
Et on va commencer par définir le terme slasher. Moi, je pensais que ça venait du bruit que fait le couteau quand il rentre dans la peau, quoi. Slash. Mais en fait, non.
Non, non. En fait, ça vient de. Si vous traduisez en français, ça veut dire taillader, trancher, tout ça, quoi. Donc, ça consiste à avoir un tueur masqué avec une allure, on va dire, iconique. Qu'on retient facilement, qu'on identifie très, très, très facilement. Et donc, ça consiste à avoir une bande de jeunes qu'on va perdre dans un endroit, si possible reculer, où on le met au milieu des gens. Dans ce cas-là, on a souvent des personnages qui sont isolés, on va dire, sur le plan plutôt psychologique, parce qu'il n'y a personne qui les croit autour d'eux, par exemple. Et donc, ils vont se faire massacrer les uns après les autres. Ça va commencer, il y a pas mal de précédents, mais ça va commencer à la fin des années 70, on va dire. Déjà au milieu des années 70, on a des films marquants qui sortent, comme Massacre à la tronçonneuse, par exemple. On a Black Christmas qui va sortir, mais c'est un film canadien, ça reste beaucoup plus confidentiel. Ça a passé la frontière donc vers le sud. Ça a eu son petit succès, on va dire, du côté des États-Unis, mais rien de faramineux, on peut dire, quoi. Et ça va vraiment prendre son envol, on va dire, à la fin des années 70, avec bien sûr l'Halloween de Carpenter, qui va sortir. Qui va bénéficier au début d'une petite sortie, on va dire, de ville en ville, et qui va finir par exploser par le bouche à oreille. Et là, on peut dire que le sous-genre, voilà, est vraiment, vraiment lancé. Après, il y a la sortie de Vendredi 13. Après le succès critique d'Halloween, maintenant, on va vraiment avoir un succès commercial, ce qui va faire que toute l'industrie va finir par s'intéresser à ça. Et tout le monde va sortir son propre film, quoi. Tout le monde va chercher une date, va chercher... va chercher un tueur, va chercher un masque, va chercher une arme de prédilection.
Comment ce genre il a pu marcher, comment il a pu arriver à part à la période historique de l'histoire du cinéma ou de l'histoire sociale ou sociétale américaine?
Ça, je pense que c'est dû en grande partie à l'érosion de la censure aux États-Unis, enfin de la censure, de l'autocensure dont l'industrie faisait user, on va dire. Il y a toujours une période de battement après ça. Donc ça a vraiment explosé au milieu des années 70, la grande période du cinéma d'exploitation, vraiment, 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 où je ne vais pas dire qu'on commençait à pouvoir faire ce qu'on veut à l'écran, mais pas loin. Ça a été une période vraiment, 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 vraiment propice à ce genre de film, je pense. Ouais. Il y a eu une sorte de lâchage, si vous voulez, quoi. Tout le monde s'est mis un petit peu à faire ce qu'il ne pouvait pas faire 10 ans auparavant, quoi.
Commencer par évoquer les origines, du coup. J'imagine que Psychose en fait partie, en fait.
Bah, Psychose, c'est une scène, la scène de la douche avant tout, quoi. C'est un retournement final qui a surpris tout le monde à l'époque. C'est aussi un pari très, très osé, c'est un grand nom qu'il y a derrière, qui s'est mouillé, faut dire, quoi.
Alors, Psychose, pour recadrer, c'est 1960. Donc c'est un film qui a été produit vraiment comme si c'était un téléfilm en fait. Donc Hitchcock, voilà, avec l'utilisation de la couleur de ses grands films de studio, tout d'un coup il fait un film avec un budget vraiment réduit, limite presque faussement amateur, peut-être aussi pour mieux surprendre son public.
Bien sûr.
Et enfin, pour moi, ce qui est le plus important, c'est pas, peut-être pas le dénouement final, c'est plutôt le... Comment il se débarrasse de son actrice, en fait. C'est Janet Leigh au bout de, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure du film, quoi. Ce qui a été un gros choc, parce que...
Bien sûr, bien sûr.
Parce que Janet Leigh, voilà, c'est une grande actrice hollywoodienne par excellence, voilà, qui avait plus rien à prouver à cette époque-là, et qui se fait, bon, ben... couper en rondelles, enfin pas couper en rondelles, mais qui se fait donc massacrer complètement à trois quarts d'heure du film, avec une séquence donc culte de la douche qui a été repris, détournée, pastichée énormément justement dans ce genre-là, quoi. Et du coup, tu t'es mis à vraiment aimer le slasher film en faisant exactement ce que font les personnages de Scream, c'est-à-dire tu faisais des soirées cinéma où tu mêlais les films d'ado, donc teen movie, les comédies ado, exactement de la même période que le slasher, et des vrais slashers purs et durs, quoi. What's your favorite scary movie? Et est-ce que tu pourrais nous parler par exemple de ces deux genres qui sont très proches, puisque voilà, par exemple Bob Clark, on a évoqué tout à l'heure vite fait Black Christmas comme une des origines possibles du slasher, et qui a fait un film qui s'appelle Porky's. Voilà, qui est un très grand teen movie, peut-être de la même année, je me demande, que Animal House de John Landis. Enfin, ce qui me surprend avec le slasher, c'est que c'est un cinéma ultra répétitif, ultra redondant. Parce que, d'où aussi son caractère ingrat, que je trouve intéressant. Mais aussi, il construit ses séquences de meurtre comme des séquences de blagues dans les films de comédie. Enfin, pour moi, c'est très proche. Et Porky's, même dans le traitement de l'image. On pourrait presque en voir le versant horrifique aussi. Enfin, il y a même des blagues de très mauvais goût qui évoquent aussi, limite, un film d'horreur. Est-ce que tu pourrais développer cette proximité entre comédie et slasher ?
Après, je pense que ça faisait partie de l'ère du temps aussi. Faut pas oublier que ces époques-là, il y a l'industrie du cinéma qui se rend compte, en fait, qu'il y a un énorme potentiel qui se cache derrière la jeunesse, quoi. Donc forcément, comment l'attirer ? L'attirer avec du nu, des blagues, des soirées entre potes. Et de toute façon, l'humour, c'est extrêmement important à l'écran. Ça vous permet de vraiment vous rendre les personnages attachants, quoi. Et c'est peut-être intéressant aussi de rendre ces personnages attachants avant de les faire disparaître. Donc l'humour, c'est un énorme vecteur pour vous identifier, en fait, à l'écran, quoi.
Que je trouve aussi intéressant dans l'humour, les teen movies et les slasher movies qui sont quelque part des teen movies aussi, c'est, comme tu parlais de la censure tout à l'heure, je trouve ça intéressant, c'est aussi une manière de détourner la censure, comme le fantastique avec Carrie par exemple, pour traiter des règles chez les filles. Il parle vraiment de la jeunesse aussi, c'est là où les films sont intéressants aussi. Même s'il part dans des stéréotypes, parce qu'il ne faut pas oublier que le slasher, je pense que c'est un film... Enfin, c'est un genre très opportuniste de producteur. Comme tu l'as dit, jongle tout de suite sur des succès. Voilà, le bouche-à-oreille d'Halloween, tout d'un coup, on voit que ça marche. On fait Vendredi 13, Prom Night et compagnie. Et pour moi, c'est aussi ça qui m'interpelle, quoi. Mais bon, en fait, je n'ai pas trop de questions, puisque tu as quand même répondu. Alors William Lustig, il n'a pas fait à proprement parler de slasher, mais par contre il a fait un film que je trouve passionnant, qui est sorti en même temps que Vendredi 13, et qui est en même temps un mélange du slasher et du film de serial killer, parce que maniaque, ouais. Parce que voilà, il travaille, comme tu dis, on retrouve le slasher dans l'idée iconique de certaines séquences de poursuite, la fameuse séquence de l'infirmière qui le pourchasse, et là on voit pas vraiment son visage, il est vraiment traité comme une ombre, une silhouette, qui vient donc du coup... harceler une infirmière qui veut rentrer chez elle, et comme dans les slashers, voilà, il a le don d'ubiquité par rapport à comme si on rentrait dans la subjectivité du traumatisme de l'infirmière. Donc en fait, tout d'un coup, il est partout, quoi. Voilà. Il est dans leur champ aussi bien que dans le montage parallèle.
Baladez-vous sur Internet, vous allez voir tout le monde a sa définition du slasher. Quoi. On parlait de maniaque, mais le nombre de gens qui pensent que c'est un slasher pur et dur, alors que pas du tout. Quoi. C'est, enfin, pour moi, absolument pas. Quoi.
Ouais. Non, mais après, on est d'accord, maniaque, c'est plus un film hybride, voilà, qui joue sur le film de serial killer et sur le slasher, sans du coup ni l'un ni l'autre.
Parce qu'on sait de suite qui est l'assassin, en fait, c'est ça ? Et que c'est le personnage principal.
Ces victimes, on les suit que, voilà, il y a une victime à son heure de gloire, il est qu'à ce moment-là, et même avant, on l'aura pas vu, et du coup, forcément, après non plus, quoi. Et c'est un peu voilà c'est un peu l'ancêtre d'Henry Portrait of a Serial Killer tu vois à ce niveau là quoi mais voilà c'est très marrant parce que c'est un film pas du tout réaliste non plus quoi mais voilà il y a en tout cas une tentative d'exprimer voilà qu'est-ce que le quotidien d'un détraqué et pourquoi éventuellement il serait détraqué voilà il y a une sorte d'explication un peu ésotérique à un moment donné par rapport à ce film donc du coup il y répond enfin à moitié aux propriétés du slasher, quoi, tout simplement. Quoi. Donc tu parlais, t'as mis une piste en disant que t'as pas traité de films un peu fantastiques, tout ça. En effet, il y a Freddy,
bien sûr.
Les griffes de la nuit, qui reprend vraiment les propriétés du slasher, et en même temps, pour les raisons que tu dis, pour toi, ce n'est pas un slasher.
En fait, quand j'attaque un film comme les griffes de la nuit, j'ai pas du tout les mêmes attentes que quand je regarde un film comme Scream. Pour moi, ça n'a rien à voir. Quoi. Les enjeux du film ne sont pas les mêmes. On sait qu'on va regarder un film avec un mort-vivant, quoi. Donc forcément, c'est pas du tout la même chose pour moi. Quoi. On n'attaque pas du tout le film de la même manière. Quoi. On sait qu'au niveau du scénario, ils vont par exemple pouvoir se permettre beaucoup plus de choses. Quoi. On a un mort-vivant, on peut le faire revenir comme on veut. Et puis c'est pas du tout le même univers pour moi. Quoi.
Peut-être qu'on peut parler de la structure de ton livre, en fait.
Donc, moi, je trouvais que ça s'imposait de commencer par un premier chapitre et définir. C'était vraiment une des motivations principales du livre. Ensuite, je suis revenu sur tous les films depuis le début, enfin tous les films, c'est un bien grand mot, depuis le début où on retrouve un petit peu cette imagerie du tueur au couteau. Quoi. Je suis revenu un petit peu dans tout ça. Quoi. Après, j'ai voulu faire un chapitre avec les influences immédiates. Giallo, le crime allemand, quoi, qu'il ne faut pas oublier. Tous les proto-slashers, par exemple, quoi, tous ces films-là. Après, j'ai voulu vraiment attaquer dans le vif du sujet, quoi. Donc là, on commence vraiment avec Halloween et compagnie. Là, ça m'a semblé pertinent de couper avec vraiment les premiers films qui démarrent de manière opportuniste, comme tu le dirais, quoi. Donc en gros, tous les clones qui arrivent après le succès. Ensuite, j'ai fait un chapitre avec cette espèce de traversée du désert que le genre connaît, quoi, dans les années 80, dans la seconde moitié des années 80. Après, bien sûr, un chapitre avec le revival des années 90, amené par Scream. Et puis, bien sûr, le dernier chapitre, je suis parti sur une sorte de chapitre où le genre se laisse un petit peu couler, ce qu'on connaît encore un petit peu à l'heure actuelle, de nos jours. Et je me suis donc arrêté à Scream 4, qui a été le dernier film que j'ai vraiment vu pour clôturer. Puis ça me semble intéressant de terminer avec un Scream quand même, quoi. Ce qui n'est pas rien. Et voilà, en gros, c'est la structure que j'ai suivie à peu près, quoi. Je vous avoue que moi, j'ai un gros faible pour Massacre à la tronçonneuse et puis pour Black Christmas, quoi. Massacre à la tronçonneuse, c'est un film que je classerais aisément dans le top 10, quoi, toutes tendances confondues. Black Christmas, je l'aime énormément parce que ça coïncide un petit peu avec l'envol de l'industrie cinématographique canadienne qui découvre à cette époque-là que tout simplement elle peut s'exporter au-delà de ses frontières, pas simplement satisfaire les Canadiens, quoi. Ça peut très bien marcher à l'étranger aussi. Et puis le retournement du film, quand même, le tueur est à l'étage, il se moque de vous depuis le début. J'avais trouvé ça assez fascinant, quoi.
Oui, qui rappelle d'ailleurs Terreur sur la ligne, qui est un autre film aussi étrange que Maniac, mais différemment, sur un mélange de films de serial killer et en même temps un peu slasher.
Également, quoi.
Bah, si toi, est-ce que tu aurais des choses que tu es frustré là où on t'a pas posé une question, c'est à toi de nous dire aussi.
Pas spécialement, quoi.
De toute façon, on n'a pas compris. Enfin, c'est pas fini, donc.
Pour moi, il y a une autre origine du slasher. Oui, c'est, enfin, il y a des films qui s'y prêtent énormément, et c'est vrai qu'il est tellement dans une autre contrée parce que c'est un film de SF, c'est Alien.
Bien sûr.
Voilà, il y en a un groupe qui se fait tuer les uns après les autres, et en plus, ce qui est intéressant il faut se rappeler aussi la première fois des spectateurs qui ont vu Alien, on peut pas s'en rendre compte. On a eu toute la promo des dérivés, donc on sait ce qu'on va voir, mais à l'époque, je pense que ça a fait un peu le même effet que Psychose. Alien a joué un petit peu sur la même condition. C'est qu'on a un organisme, on crée réellement un organisme vivant qui est complètement ésotérique et fantastique, mais voilà, c'est proche du slasher dans l'idée de... on a une entité, voilà, qui se débarrasse. Alors là, c'est pas des jeunes, c'est juste un équipage qui s'appelle le Nostromo, voilà, dans l'espace. Après, moi, Walter Hill m'intéresse vachement sur cette question-là, parce qu'il a fait des films plutôt survival, mais qui joue aussi sur cette idée du slasher, d'un groupe qui se font évincer au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant avec Walter Hill, c'est qu'il inaugure aussi l'idée il conceptualise le genre comme le slasher, c'est-à-dire avec des justement comme It Follows, on pourra en parler après, où il n'y a plus de psychologie, c'est comme des personnages fonction. C'est pour moi, bon, c'est Warriors. Alors, un peu moins sans retour, mais il y a quand même ça aussi. La proximité avec Alien, pour moi, est intéressante, surtout que c'est un film de 77 ou 78. Enfin, en tout cas, c'est fin 70, donc c'est vraiment contemporain à Halloween, quoi.
Bien sûr.
Donc, est-ce que toi, t'aurais envie de dire quelque chose par rapport au survival, un autre sous-genre proche du slasher, via, par exemple, Alien ou un autre film, si tu préfères parler d'un autre film?
Le pont qu'on pourrait faire entre Alien par exemple et le slasher, l'idée qui saute tout de suite aux yeux, c'est la dernière survivante. C'est la dernière survivante avec Sigourney Weaver, quoi. Ça pose un petit peu un canon qu'on va retrouver systématiquement dans le slasher après, quoi.
On pourrait penser que c'est un genre misogyne, en fait, mais il y a beaucoup d'héroïnes, en fait, dans ces films-là.
C'est Slumber Party Massacre qui est assez étonnant. Parce que c'est écrit par une activiste féministe, le film.
Ouais.
Et ça a été produit par le frère de Roger Corman, donc je crois que c'est Gene Corman. Et voilà, c'est un film, je crois, au milieu des années 80, alors qu'il arrive à un moment donné où on pourrait dire, malgré que ce soit des héroïnes, quand même, elles sont montrées plus ou moins à poil de temps à autre. Voilà, c'est aussi un prétexte pour voir des comédiennes dénudées, pas forcément la protagoniste, mais en tout cas pas mal de personnages féminins. Et voilà, il y a ce film qui arrive, voilà, au milieu des années 80.
C'est quoi le titre français ?
Alors c'est Fête Sanglante, je crois. Fête Sanglante. Ouais. Que Damien Holden Jones, voilà, dans les milieux des années 80, qui sort. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu l'ancêtre de Boulevard de la Mort. Donc voilà, c'est là où la question féministe est intéressante. C'est que au fur et à mesure, ça commence vraiment comme un slasher pur et dur, plutôt misogyne, parce que on voit les comment on appelle ça, les leitmotifs du genre, alors des filles qui prennent leur douche pour prétexte pour les voir dénudées, ensuite qui font une soirée pyjama, et ensuite il y a un tueur qui rôde et qui va les décimer une par une, et qui donc il les montre dans un dans une, des positions de faiblesse, et surtout que bon, au niveau des dialogues, bon, ils se font plaisir que elles ont l'air pas très intelligentes. Mais ce qui est intéressant dans le film au fur et à mesure, c'est qu'il y a deux personnages féminins qui vont tirer leur épingle du jeu. Et c'est dans leur union où elles vont venir à bout du tueur. Et c'est aussi dans l'acharnement qu'elles vont orchestrer contre le tueur qui va révéler que tout d'un coup, on est dans une étrangeté par rapport au genre. Parce que voilà, je crois que c'est un tueur à la perceuse dans mon souvenir. Donc ouais, évidemment, le symbole phallique de la perceuse.
La foreuse de chantier, là, c'est sûr que là, oui.
Elle prend tout son sens et là, évidemment, il en prend vraiment plein la figure, beaucoup plus que dans Scream, qui, je pense, intègre inconsciemment ou consciemment ce type de scène. Et voilà, je pense que c'est un film vraiment intéressant qui détourne le genre par rapport à cette question-là.
Radio Libertaire, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres.
Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur Jamie Lee Curtis, qu'elle a quand même fait pas mal de slasher movies? Ça nous permettra de parler aussi de peut-être de ces films-là, si tu en as envie.
Et d'Halloween, surtout.
Ouais, et d'Halloween.
Jamie Lee Curtis, ce qui m'a frappé, c'est bon, bien sûr, à tournant Halloween, elle se fait connaître grâce à cela. Ensuite, c'est sa présence sur d'autres films. En fait, quand tu creuses un petit peu, tu vois que des films ont été à deux doigts de pas se faire, et jusqu'au moment où on rentre dans le bureau pour signer le contrat, quoi, pour s'engager, pour s'embarquer dans le navire, quoi. Prom Night. Moi, il y a vraiment le côté disco qui est omniprésent dans le film. Là, j'ai beaucoup de mal.
Non, après, moi, ce que je trouve intéressant avec Prom Night, c'est un film qui est très opportuniste, mais dans son opportunisme, il y a des rencontres marrantes, quoi. C'est quand même, bon, en effet, comme tu dis, le disco, avec la fièvre du samedi soir qui est explicitement citée, mais même jusqu'en les jeux de lumière, enfin, ouais, c'est un pastiche volontaire et assumé dans le film. Pour moi, l'intérêt du film, par rapport à Jamie Lee Curtis, il est là, c'est Halloween, c'est une victime survivante. Et en fait, dans Prom Night, elle est ni vraiment victime, ni vraiment survivante, puisque de toute façon, l'assassin n'est pas intéressé par elle. Alors je vais pas dire à la fin pourquoi il n'est pas intéressé par elle, mais du coup sa figure est très étrange dans le film. Parce qu'elle a un rôle principal, mais elle est ni victime, ni... pense qu'il y a un préjugé sur le slasher qu'on pourrait avoir. Avec Yves Marion, on en discutait sur Internet hier. C'est justement, ça, on pourrait interpréter ça comme il faut, enfin voilà, à cause des slasher movies, c'est-à-dire qu'il y a des psychopathes partout, il faut sécuriser, il faut des flics, etc. Et ce que je trouve intéressant dans le genre, c'est que souvent la figure policière est plutôt ridiculisée. Donc en fait, et comme tu dis, le danger, il n'est pas de l'altérité, il vient pas de l'altérité, mais du même, c'est-à-dire plutôt de la communauté justement bonne sur tout rapport.
Bien sûr.
Et peut-être que tu pourrais dire un mot justement sur ce regard politique assez intéressant et mal interprété qui fait amalgame souvent dans les critiques.
C'est vrai que la figure dans les slashers, la figure de l'autorité policière, elle n'est pas présentée sous son meilleur jour. Hein. Soit ils sont totalement absents, soit c'est déboulé. On a un petit peu l'image qu'on a du flic américain, voilà, un petit peu obèse, tout le temps à sa radio en train de manger des donuts. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est dans un monde où il n'y a quasiment aucune autorité, quoi. Les parents, ils ne sont pas là. La police, on ne va pas compter dessus.
Mais ce qui est intéressant dans Halloween, c'est qu'il n'y a aucune figure parentale, excepté le shérif et Donald Pleasance. Et dans mon souvenir, je crois qu'il n'y a quasiment pas d'adultes. On est qu'avec des enfants, enfin des ados, en fait. C'est comme s'il avait évincé, il avait reconstruit un paysage américain et qu'il avait complètement occulté tous les... Enfin, même le professeur, on le voit, mais c'est comme si on l'oublie très rapidement, il s'arrange pour qu'on insiste tellement très peu dessus qu'il disparaît, en fait. Et donc, il reste en effet que ces jeunes, avec des enfants. D'ailleurs, c'est un des rares slashers qui intègre des enfants dans son film.
C'est vrai.
Ce qui est assez étonnant aussi... qui marque aussi, voilà, Jamie Curtis, ce qui est intéressant, c'est quelque part inconsciemment aussi, elle veut pas grandir, c'est ce qui la protège, elle est encore dans le monde de l'enfance. Enfin, y a un truc très très étrange, je trouve, par rapport à ça.
C'est vrai.
Dans tous ces films-là, on cite Halloween, Tronçonneuse, Psychose, c'est les films qui à chaque fois inventent quelque chose, enfin qui renouvellent. En fait, les films majeurs, c'est toujours qui inventent la figure en même temps, en fait. Au contraire de ceux qui suivent le filon.
C'est pas compris.
Non, c'est la Coprom 9 qui n'invente rien, par exemple. Tu vois, alors que peut-être dire en quoi chacun de ces films majeurs apporte quelque chose et, par rapport au précédent, en fait.
Alors, moi, je dirais juste que par rapport au slasher film, ouais, ce que j'adore dans ce cinéma-là, c'est qu'en fait, il n'y a aucun chef-d'œuvre. Enfin, je pense que ça, il faut le dire, avec Vincent on a discuté, on est complètement d'accord dessus. Il y a des films précurseurs qui sont géniaux, donc Halloween c'est un classique, enfin, je pense qu'on ne peut pas revenir vraiment là-dessus, mais c'est un genre qui est tout le temps redondant, tout le temps dans la répétition. Par contre, c'est un genre qui bénéficie de scènes qui sont des classiques. C'est comme si Psychose, il n'y avait que la séquence de la douche qui était intéressante. Et dans le slasher, ils vont reprendre Psychose, au moins 5 fois quoi, via les séquences de meurtre. Alors, évidemment, ce ne sera jamais la séquence de la douche, mais il y a une construction fétichisée, il y a une construction au montage ou dans la lumière selon les réalisateurs et leur parti pris sur ces séquences-là, que je trouve extraordinaire. Alors, on parlait de Prom Night, et là, je l'ai revu donc, hier, et voilà, il y a des effets vraiment même expérimentaux dans le montage, dans le rapport au ralenti, mais même jusqu'à l'abstraction. Termine sur un moment donné un cadavre. On voit l'allusion à Jeannette Leigh dans la séquence de la douche avec la bombe de la baignoire. Sauf que là, voilà, c'est une sorte de plan sur un visage de trois quarts. On prend juste qui s'avance légèrement. Et il y a une sorte de fond de enchaîné dans une sorte de ponche rouge. Et voilà, on a la bombe dans ce ponche rouge, dans ce récipient, etc. Enfin, c'est assez étonnant, quoi. Et c'est là où je pense que le genre tire son épingle du jeu. C'est que ça devient un genre collectif, en fait, un peu comme la comédie à l'italienne, sauf que la comédie à l'italienne, il y a des classiques, voilà, à l'intérieur même du genre. Et le slasher, il n'y en a pas. C'est comme s'il ne pouvait pas y avoir, avec cette construction conceptuelle, il ne pouvait pas y avoir de chef-d'œuvre parce que c'était que ça, que de la répétition, du pastiche, une sorte d'autocitation permanente.
C'est très difficile de se démarquer, de faire quelque chose qui tranche avec tes prédécesseurs, c'est sûr. Après, moi, je citerai quand même un chef-d'œuvre. Massacre à la tronçonneuse, pour moi, est un chef-d'œuvre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je le mettrai toutes tendances confondues dans le top 10. C'est le seul slasher que je rangerai peut-être dans ce top 10. Il y a plein de choses qui sont extrêmement intéressantes dans Massacre à la tronçonneuse. Le rapport, par exemple, avec le soleil. Il y a plein de plans. À partir du moment où ils s'éloignent de leur maison d'enfance qu'ils ont retrouvée et qui rejoignent cette maison des cannibales effroyable. Quasiment tous les plans sont pris en contre-plongée, quoi. Et on voit le personnage qui s'avance avec toujours le soleil qui est au-dessus, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant entre cet astre, quoi, qui fait un petit peu le pont entre le moment où ils sont à l'abri et puis le moment où ils vont verser vraiment dans l'enfer absolu. À la radio, il y a plein d'allusions aussi à ça. Le cinéma américain, à cette époque-là, on n'est plus dans la science-fiction, quoi. C'est les premières années où le public découvre que l'horreur peut arriver du voisinage, peut se trouver dans la rue, peut se trouver dans la population américaine. Il vient plus de l'espace, donc entre parenthèses, les communistes, c'est souvent le cas. On se rend compte vraiment à cette époque-là que l'horreur est parmi nous, quoi. J'avais lu un truc il n'y a pas longtemps, de l'autre côté du rideau de fer, pendant des années en Russie, on a caché les premiers tueurs en série, quoi. C'est un truc qui est arrivé, qu'on a commencé à connaître dans les années 90, par exemple, quoi. Tout ça a été systématiquement occulté, on ne le connaissait pas, quoi. Bon, de l'autre côté, ça arrive un petit peu plus tôt, mais c'est pareil, il y a toujours eu cette censure que nous, on n'est pas capable de faire le mal, quoi. Il faut que ça vienne d'ailleurs, quoi. Et Massacre à la tronçonneuse, pour moi, est vraiment, vraiment représentatif de ça, quoi. C'est peut-être pas plus que Psychose, mais je sais pas, il le met plus en valeur, quoi.
En tout cas, c'est marrant que tu cites Psychose, parce que c'est deux interprétations complètement radicales, à la fois très proches, parce que Massacre à la tronçonneuse cite explicitement Psychose, et à la fois très différentes, sur le fait divers d'Ed Gein, voilà, donc serial killer des années 50, je crois, qui avait marqué les esprits, parce que voilà, c'était un voisin bon sous tout rapport, qui en fait vouait une passion complètement folle par rapport à sa mère qui était décédée, et qu'il avait profané des tombes, et il avait recyclé, on va dire, des ossements pour des... Enfin, pour en faire des détournements, pour faire du mobilier.
You're going to care blood, ain't you? You'll never come back again. It's got a death curse.
Vendredi 13, pour moi c'est vraiment le film qui va inaugurer peut-être la plus longue série du genre. Alors je sais plus combien il y a d'épisodes, mais on a énormément, sans compter les reboots, enfin, avec je sais pas la rencontre entre Freddy et Jason Voorhees, donc le tueur revenant de Vendredi 13. Et donc ouais, est-ce que tu aurais envie de parler d'un des aspects, soit du premier Vendredi 13, soit de toute la série qui vient ensuite?
C'est le film qui a prouvé que les slashers étaient vraiment ultra rentables. C'est ce film-là qui a prouvé qu'il y avait vraiment beaucoup d'argent à se faire de ce côté-là, quoi. C'est dans ce sens-là qu'il est marquant. C'est aussi une nouvelle ère. Dans l'industrie du cinéma, en fait, c'est Vendredi 13, c'est un des premiers vraiment, vraiment films qui va être financé par des petites boîtes et qui va être acheté par des gros studios, quoi. C'est ça qui est extrêmement important, quoi. Vendredi 13, il faut savoir que c'est un film qui est né à partir d'un titre. Quand il trouve de l'argent, en fait, quand il commence un petit peu à cadenasser tous les trucs, à trouver un distributeur, à s'enseigner sur les trucs, à tout, un petit peu tout ce qui tourne autour. C'est un titre.
Et là, il n'y a rien écrit dessus, tu veux dire.
Il n'y a juste pas un scénario, il n'y a pas une idée, il n'y a rien. Il n'y a pas de tueur, il n'y a pas de... On ne sait pas ce qu'on va faire dessus, mais on a un titre. On a un titre
qui est sur le côté superstitieux du Vendredi 13. Quoi.
Exactement, quoi. Ouais. Exactement, quoi.
D'accord.
Il y a deux films, en fait, pareil, qui ont bataillé sur le titre.
April Fool's Day, je crois.
Exactement,
c'est ça.
Exactement. Ouais. Le truc, ça s'est joué entre Weekend de Terror, si je me souviens bien, et Slaughter High. En fait, ces deux films, ça a été une bataille de justement entre deux boîtes de production pour s'assurer un titre qui était prometteur à des kilomètres, quoi. Et c'est là qu'on se rend compte que vraiment les slashers tenaient à un titre. Ensuite, ça tient avec bien sûr des meurtres que tu dis, toute la surenchère du gore qu'il y a.
C'est que le slasher va développer des films juste sur des grâce aussi à Halloween, parce qu'Halloween, donc c'est quoi? C'est la nuit des masques, donc la nuit. La nuit d'Halloween, voilà, qui est quelque chose de typiquement anglo-saxon. Il y a Vendredi 13, voilà, le jour donc superstitieux. Il y a il y a Bloody Valentine, donc la Saint-Valentin.
Bien sûr.
Donc voilà, c'est toutes les dates, voilà, particulières, fériées, etc. Les tous les films, ils vont essayer de d'épuiser, d'épurer toutes ces questions-là pour en faire des questions
toutes
commerciales.
Toutes les dates y passent.
Avance dans la série des Vendredi 13, moins les films sont bons, mais paradoxalement, plus la figure du serial killer est étonnante et pop, quoi, et iconique.
Dans le sens où le tueur de Vendredi 13 a évolué. Dans le premier, on sait tout ce qu'il sait. Dans le deuxième, donc c'est Jason qui arrive, qui prend la succession. Le truc qui est bien dans Vendredi 13, c'est que la figure telle qu'on le connaît du tueur a évolué au fur et à mesure de la franchise. Alors on lui met pas tout de suite le masque de hockey, la machette à la main, quoi. On le finit par le découvrir, sans compter qu'il y a un épisode où c'est pas vraiment lui le tueur, où il y a un imitateur, ce qui permet un petit peu de faire une petite pause dans la série. C'est ça qui est intéressant dans Vendredi 13, quoi. C'est, par exemple, dans Halloween, on a Myers, il est là depuis le début, quoi. Il sera là jusqu'à la fin, quoi. Ça sera toujours le même, toujours ce même masque blanc, inexpressif, avec les yeux qui ont été agrandis. Avec Jason, quoi, la figure se construit au fur et à mesure, quoi. Ils ont mis quoi, 3 films à avoir vraiment leur tueur, quoi. Il y a eu une évolution, c'est ça qui est intéressant.
Hello.
Hello.
Who is this?
Tell me your name, I'll tell you mine.
I don't think so.
What's that noise?
Popcorn.
You making popcorn?
Well, I'm getting ready to watch a video.
Really? What?
Oh, just some scary movie.
You like scary movies?
Uh-huh.
You never told me your name.
Why do you want to know my name?
I want to know who I'm looking at.
Someone is playing a deadly game.
It all began with a scream over 911.
Someone who's seen one too many scary movies. Now, he's taken his love of fear.
Hello?
Hello, Sydney.
One step too far.
Do you like scary movies?
What's the point? They're all the same. Some stupid killer stalking some big-breasted girl who can't act, who's always running up the stairs when she should be going out the front door. It's insulting.
There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a scary movie. Number one, you can never have sex. Never, ever, ever, under any circumstances, say, I'll be right back. Because you won't be back.
Get another beer, you want one?
Yeah, sure.
I'll be right back!
You didn't make the rules.
The police are always on track, but they watch Palm Night at safe time.
He just kills by them. Don't answer the phone. Don't open the door. Don't try to hide.
Le retour de ces films, faut quand même le saluer, on parle tout le temps de Wes Craven, mais pour moi, vraiment, le vrai retour du film est dû à Williamson, bien sûr, quoi, à son gros travail d'écriture, quoi, sur Scream, à son travail aussi sur Souviens-toi l'été dernier, c'est quand même lui qui a créé ce tueur au crochet, quoi. Même si le film ne tient pas la comparaison avec Scream, c'est quand même un film que j'aime bien. On a vraiment un tueur qui marque, qu'on a retrouvé dans plein de choses. Il est repris dans les Simpsons, quoi. C'est pareil, c'est comme Ghostface. C'est vraiment un tueur qui est rentré dans la culture, quoi.
Ghostface, pour rappeler les noms les noms fans de qu'est-ce que c'est Ghostface, c'est le tueur psychopathe de Scream, quoi, avec ce masque qui a influencé du cri du Munch, je crois, qui a été une influence, ouais. Donc du peintre Munch. Pour toi, quel a été les enjeux majeurs du scénariste Kevin Williamson pour revigorer le genre?
Déjà, je pense que c'est une médiathèque sur pattes, quoi. Le mec, il connaît vraiment ses classiques sur le bout des doigts. Il a pris beaucoup de recul par rapport à ça. Il s'est dit, l'époque a changé. Maintenant, il va falloir moderniser l'ensemble. En même temps, je veux garder les bases. Je suis un fan, je garde les bases. Il a pris tout un recul par rapport à ça. Tout ce qui n'était plus crédible à la fin des années 90, il l'a effacé. Il a surtout créé des personnages qui étaient conscients de ce qui s'était passé dans le cinéma avant eux. Il a créé des personnages cinéphiles, ce qui est quand même assez intéressant. Pour la première fois, on se retrouvait dans un film qui parlait de films par des gens qui connaissaient vraiment les films. Donc c'était vraiment, il y avait un gros travail d'écriture avec ça, quoi. C'est quelque chose qu'il a décliné aussi, par exemple, dans la science-fiction, avec The Faculty, quoi. C'est encore lui.
Radio Libertaire, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui aux slasheurs, avec Yves-Marie Mahé, Derek Wolfenden et leur invité Vincent Maya.
Je rappelle juste quand même le titre pour que vous le trouviez plus facilement pour les auditeurs en cours de route. C'est À couteau tiré, donc l'histoire du slasher movie, donc par Vincent Maya, Maya M-A-I-A. Voilà. Et ça a été publié l'année dernière, fin de l'année dernière, c'est ça, 2014.
C'est ça. Voilà. Donc vous pouvez le trouver facilement sur Internet.
Ah, sur Cinéart aussi.
Sur Cinéart, ouais.
Voilà, donc si vous voulez connaître le slasher movie. Les gros films comme les petits sont largement cités et voire développés au niveau en tout cas de l'histoire ou du genre intégral ou plutôt aussi même au niveau du petit récit à chaque fois, voilà, pour avoir une idée plus claire et limpide du film en question, quoi. Enfin des films en question.
Ouais. Bah, je vous remercie Vincent et Derek.
Merci.
Et puis on se retrouve la semaine prochaine.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres consacrée au slasher movie. Alors on vient d'écouter le montage de Yves-Marie Mahé avec Derek Wolfenden et leur invité Vincent Maya. On va écouter maintenant une deuxième partie, un complément de programme si je puis dire, qui sera peut-être un peu moins sérieuse. En tous les cas, c'est un montage qu'on a fait. Alors on s'est retrouvé avec toujours Yves-Marie et Derek dans les studios et notre ami Christophe Vaillant qui est éducateur dans le Pas-de-Calais. Donc on a fait une discussion, s'est enregistré. Derek dit des choses très intéressantes sur le genre, mais j'ai aussi c'est un montage un peu gratuit avec une deuxième piste qui est constituée d'un solo de batterie de Martin Brandelmeier, fabuleux batteur autrichien. Ça a été enregistré, j'ai enregistré ça au festival Météo de Mulhouse en août dernier. Alors, je ne sais pas trop pourquoi j'ai mis ça. C'est un peu gratuit, ça n'a pas trop de sens. Mais bon, je trouve que ça fait un truc assez marrant. Et il y a une troisième piste constituée d'extraits de bande-annonces, de films de slasher, également d'un reportage télé sur les tueurs en série. C'est un truc, alors on entend notamment un des tueurs en série les plus terrifiants des États-Unis qui est dans le couloir de la mort, hein, il attend d'être exécuté, et il est interviewé par le, comment il s'appelle ce gars, je sais plus son nom, mais enfin le profiler français là, qui travaille beaucoup sur les tueurs en série, qui s'intéresse à comprendre ce qui se passe chez ces gens-là. Donc voilà, c'est la deuxième partie de l'émission sur les slasheurs. We'll be right back.
heard him exclaim as he drove out of sight, Merry Christmas to all!
Ah oui, il faut. Mais en fait, je sais même pas si tu. Parce que la dernière fois, t'as écouté, mais du coup, le son était pourri. T'avais écouté, mais le son était pourri, le gars, on l'entendait pas même tout. J'avais fallu que j'augmente, en fait, c'est plus fidèle de se fier au. C'est aussi fidèle de se fier au.
Putain, je vais tousser, ça va être chiant.
Au graphique.
Ouais, moi, je regarde bien, j'aime bien le graphique.
Ouais, bah. Slash.
Le slasher. Le slasher Belin. Slasher Belin, slasher Belin.
Moi, j'ai un livre sur la musique industrielle que je voudrais conseiller. Et je voudrais dire que c'est bien et que ça fasse un bruit métallique.
Ah bah là, quand tu tapes, c'est pas mal déjà.
Ah. Ouais, voilà.
Et des recs, quand tu parles
Bah, je sais pas, ça marche là.
Tu gueules ou quoi?
Non.
Bonsoir. Ils violent, ils torturent, ils tuent. Ce sont les tueurs en série. Ils sévissent partout, aux États-Unis, en Europe et même chez nous en France. Qui sont ces hommes et ces femmes? Comment et pourquoi passent-ils à l'acte? Quelles sont leurs motivations? Et que se passe-t-il dans la tête d'un serial killer?
Alors, dans l'annonce de l'émission, je te rappelle qu'on parlait du fait de défendre avec difficulté ce genre. Donc, est-ce que tu es capable de le défendre de... Parce que moi, c'est vrai qu'a priori, j'ai quand même l'impression que c'est un truc de faf, quoi, de moralisateur. Si tu te drogues, si tu bois, si tu couches, en gros, tu meurs.
Alors ça, ce serait la première lecture la plus facile et raccourcie. Mais en fait, avant tout, comment expliquer? En fait, moi, je pars de la matière complètement ingrate du slasher et qui m'intéresse. Et du coup, je me dis, c'est tellement ingrat que ça en devient intéressant. C'est la répétition. En fait, un film de slasher en bonne et due forme, il est construit franchement comme un film porno. C'est-à-dire que tu remplaces les séquences de meurtre par des séquences de cul, t'as un film porno, c'est exactement la même finalement, quoi. Et moi, ce que j'adore, c'est vraiment le côté très... Enfin, moi, ce qui me fascine, c'est que ça m'emmerde pas. Enfin voilà, c'est construit pourtant comme un film porno, et le film porno, ça m'emmerde au plus haut point. Alors que là, non, c'est vraiment une sorte de jeu de piste où qui va mourir en premier, comment il va mourir. Donc tout d'un coup, c'est vraiment que des questions de mise en scène qui sont mises en avant, en fait. Et plus du tout des questions d'histoire, de scénario, etc. Au contraire, le scénario est lagué au maximum. Et d'ailleurs, le slasher cite très souvent, de manière indirecte ou directe, le western. Soit en reprenant des vieilles figures du Far West, alors je sais pas, ou même dans ses habits, t'as George Kennedy dans Survivance de Lieberman dans les débuts des années 80. Et ils s'en prennent plein la gueule eux aussi, quoi. Comme si cet âge d'or du western, justement, donc de la droite pure et dure qui parle avec son flingue, ça ne marche plus, quoi. Tout d'un coup, le slasher, il y a un dérèglement qui fait que tous nos repères habituels partent en sucette, en fait. Et c'est là où le genre est intéressant. Et d'ailleurs, souvent le personnage qui va tirer son épingle du jeu, c'est pas forcément un jeune garçon, c'est une jeune fille. Donc c'est elle, finalement, l'héritière du Far West, c'est elle qui va se... Et pourtant, qui sait pas forcément de servir d'une arme à feu ou je sais pas quoi, qui va réussir avec de l'ingéniosité et de la débrouillardise, mettre à mal le serial killer. Et un autre aspect qui est important, c'est souvent une fille avec des problématiques, alors je sais pas, de... familiaux, ça peut être divorce ou de ses parents qu'elle n'arrive pas à... Enfin, elle a toujours un pied un peu plus dans la réalité que les autres qui sont un peu trop dévergondés, un petit peu trop, on s'amuse, on s'éclate, on fait n'importe quoi. Et t'as toujours ce personnage qui a toujours un pied plus ou moins dans la réalité, soit un traumatisme, soit juste bon, des conflits familiaux, qui va tirer son épingle du jeu. Donc c'est presque un monde intérieur à ce personnage-là aussi, le film, c'est comme le cauchemar extériorisé de ce personnage, de ce protagoniste-là, quoi. Ce qui fait que tout le reste est irréel, en fait. Tu peux presque l'interpréter comme ça, souvent.
Moi, il y a une question qui m'intéresse, c'est est-ce que les slashers, est-ce que ça n'a pas plutôt une fonction de nous désangoisser? Parce que moi, par exemple, j'ai un enfant qui est très angoissé par la mort, qui a 11 ans, et quand je me remémore son âge, peu de temps après, vers l'âge de 12-13 ans, moi j'étais abonné à Mad Movies, et j'aimais assez les films d'horreur, tout ça, et je crois que ça m'a aidé à plus avoir d'angoisse, ça m'a aidé à plus avoir peur, le fait d'en rire, de regarder ça à la télé, sert pas un petit peu à ça aussi même à notre âge.
Je pense parce que c'est un peu la figure du tueur, c'est un peu la figure du croque-mitaine pour les enfants. Sauf que là, les slashers, c'est pour les adolescents, puisqu'ils sont en général interdits au moins 12 ans, exceptionnellement interdits au moins 16. Mais voilà, donc c'est vraiment la tranche d'âge. Ah, ça y est, j'ai 12 ans, je suis ado, je peux aller voir ce type de film. Donc c'est aussi adressé à ce type d'âge, en fait, quoi. C'est vraiment aux ados. Donc je pense aussi, c'est pour les faire, comment on appelle ça, affronter une sorte d'âge adulte un peu ingrat, qui est le père fouettard via le croque-mitaine. Et comment affronter cette figure puritaine qui, en effet, est la figure du père fouettard, du tueur, etc. Et comment on arrive à bout, en fait, quoi, tout simplement.
Ici, t'es chez moi, et tu vas regretter d'être venu. T'as tué mon chien, t'as voulu tuer mon grand-père, et tu m'as fait mal. Et tout ça parce que j'ai voulu te voir. Maintenant, moi aussi, je suis en colère, et t'as pour être le Père Noël. Je te jure que tu vas avoir peur.
Et après... Mais après, ça, c'est vraiment en deçà des vraies problématiques à partir des années 80 où ça devient autre chose. Parce que quand on parle de massacre à tronçonneuse, là, on a vraiment des figures critiques.
The Texas Chainsaw Massacre. After you stop screaming, you'll start talking about it.
Où c'est l'Amérique qui dégénère, où c'est l'Amérique qui se tue elle-même, en fait, quoi, où l'ennemi, il n'est plus à l'extérieur comme au Vietnam, il est à l'intérieur, c'est ton voisin. Dans le Wisconsin, qui commet des actes atroces, quoi. Et après, voilà, les années 80, ils vont élaguer. On va avoir qu'une trame super froide et sans pitié sur une figure qui tue des jeunes. Et souvent, il y a même de l'ironie par rapport à ces jeunes, c'est-à-dire la mort de chaque jeune les identifie aussi. Par exemple, une nana trop mignonne qui arrête pas de se mettre du rouge à lèvres ou de se mettre du fond de teint, il va y avoir une mort liée à sa vanité à elle, quoi. Et donc, c'est très intéressant. Ça devient, du coup, sa mort devient à la fin une nature morte, quoi, avec la tête découpée. Avec du rouge à droite et à gauche. Alors, par exemple, ça peut être des idées ou plein de roses, quoi, où on pastiche ce qu'elle était de son vivant, et que finalement, bon, morte, elle est pareille, quoi. On peut aussi bien la décorer. Voilà. Ouais, y a vachement d'ironie là-dessus. Enfin, c'est pour ça que je trouve que c'est presque certaines morts dans les slashers, tu peux presque les comparer à des trucs surréalistes, à la Hans Bellmer, les corps complètement estropiés. Ou du Sven Meyer, tu vois, l'animateur tchèque. Enfin, ouais, y a plein de. Au niveau du gore et tout, il s'éclate aussi. C'est une époque où il y a une sorte de pied levé sur la censure, où on se permet vraiment des figures grotesques dans la mort, etc. Donc, je trouve super intéressant.
Combien de personnes avez-vous tué?
Honnêtement,
aucune idée.
Si je vous dis 70, 80, 100, je ne sais pas. Je ne faisais pas de marque sur la crosse de mon pistolet comme les bandits du Far West. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai tué 5 ou 6 par an pendant 20 ans.
Ouais, après, moi, ce que je reviens sur le côté comique du slasher, c'est que c'est pas du tout réaliste. Donc en même temps, je pense qu'au bout d'un moment, quand t'en vois, tu comprends vraiment, même inconsciemment, que tout ça, c'est faux, quoi. Enfin, je veux dire, les corps, ils sont d'une fragilité incroyable. Ils sont, je te dis, une tête, elle explose comme une pastèque, juste parce qu'il y a un coup d'hache dans la tête, par exemple. Enfin, selon les réalisateurs, comment ils vont traiter ça. Mais c'est complètement faux, quoi. Même la construction, elle revendique presque quelque chose d'absolument. Enfin, il y a un pote qui m'avait dit, mais c'est tellement débile. Lui, il était peut-être plus normal que nous. Il disait, mais on est aux États-Unis, ils ont des flingues.
Et voici l'arme de crime.
It's actually a butcher knife.
C'est un couteau de boucher. Il a été aiguisé tellement souvent que sa lame est devenue toute fine.
Quoi, elle va se faire chier à prendre un couteau dans la cuisine? Pourquoi elle va prendre un tisonnier, etc.
Normalement, la tronçonneuse, quoi.
Ouais, mais même un flingue. C'est la tronçonneuse, tu dois être à proximité, tu vois. Mais il y a un flingue ou un fusil, quoi. Pourquoi tu prends pas et tu le flingues et c'est réglé, il n'y a plus de film, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à te faire oublier cette réalité-là américaine. Mais pourtant, c'est adressé aux Américains, donc ils arrivent même à faire oublier ça aux Américains. Et alors qu'en fait, c'est vrai, tu prends un flingue, une Kalachnikov, un fusil, enfin, dans toutes les maisons de campagne américaines, t'as forcément un fusil, t'as forcément un flingue, du daron qui est souvent pas là d'ailleurs. Et les enfants savent très bien où sont les armes, quoi. Et jamais, ou très rarement, ils vont l'utiliser. C'est complètement pas probable, et c'est ça qui est fort, ça arrive à te rendre crédible tout ça, quoi, tous ces éléments-là, quoi.
Thank you.
s'appelle Thomas. C'est un surdoué. Il croit au Père Noël. Il a deux passions. Les ordinateurs et les super-héros. 24 décembre, minuit. Caché sous la table de la salle à manger, Thomas attend l'arrivée du Père Noël. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est sur le point de vivre la nuit la plus terrifiante de toute sa vie.
Puisqu'on est le jour de Noël, est-ce que tu pourrais nous parler de du slasher par rapport à Noël? Est-ce qu'il y a eu, j'imagine qu'il y a eu des adaptations Père Noël au meurtrier?
Alors t'as un français, c'est 3615 code Père Noël.
3615 code Père Noël, le film.
Ça, il fait un film un peu social par rapport à la clochardisation. Donc, je crois que c'est dans mon souvenir, c'est un clochard qui s'habille comme le Père Noël et qui va faire ses méfaits. Aux États-Unis, t'en as quand même beaucoup. T'as Christmas Evil, alors je sais plus c'est qui, c'est au milieu des années 80. T'as 12 nuits, sanglantes nuits. T'en as une série, je crois, qui est arrivée jusqu'à 4, 5. T'as même le troisième qui a été réalisé par un cinéaste assez culte en France, qui est Monty Hellman. Donc, voilà, enfin, pour certains, ouais, c'est le troisième. C'est Deadly Night, Silent Night. Et t'en as un qui est. T'as aussi un film de Robert Zemeckis, un des sketchs de Conte de la Crypte. Joué par Larry Drake, où c'est un dégénéré qui s'échappe de l'hôpital psychiatrique et qui est en Père Noël et qui, et qui bute, je crois, toute une famille.
Bah, t'as Black Christmas.
Et voilà, et le plus connu, le plus important, Black Christmas, qui est du milieu des années 70. Black Christmas. Et qui est un des, comme on dit, qui est un des proto-slashers, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'avant qu'il soit créé, il y a déjà, là, en amont, dans ce film... les questions du slasher sont déjà posées, en fait, quoi.
Oui, il y a une...
Alors, ben...
Tu veux que je te formule une question? La question qui m'intéresse, c'est est-ce que...
Comme tu veux.
Non, je ne sais pas. Vas-y.
Ah non, je comprends.
Il y en a un, ouais. Comme Cosmos, ouais. Je crois que c'est difficile à l'âge adulte de rentrer dans un film comme ça, dans un film de slasher où t'as peur d'être... t'es plus vraiment dans l'émotion, tu regardes avec beaucoup de recul et ça t'angoisse peut-être pas assez. Bah, Yves-Marie l'expliquait bien tout à l'heure, il disait que un des moyens de rencontrer quelqu'un, d'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un, c'est de rassurer.
Oui, après, au-delà de la séduction, c'est même par rapport à toi-même, c'est enfin, pour exister, il faut qu'il t'arrive quelque chose, même si c'est faux, même si c'est de l'illusion, enfin, il y a aussi ce besoin d'illusion.
Après, Christophe parlait de la séduction, c'est vrai que t'auras plus tendance à enlever
l'émotion, tu regardes avec beaucoup de recul.
Je suis pas sûr.
Évidemment, après tout ça, c'est monté, mais au moins ils ont un vrai jeu qui est pas découpé. Et ensuite, c'est un montage qui simule que tout est en plan séquence.
C'est un écran d'ordinateur.
Tout est montage. Bon. Tout ça, c'est du montage virtuel.
Comment vous sentiez-vous après les meurtres?
Une fois que c'était fini, je n'y pensais plus. Maintenant, ils font partie de moi. Je n'arrive pas à m'en débarrasser.
Est-ce que les visages des victimes vous hantent?
Tous les jours. Les visages, la douleur, les cris, les pleurs. J'ai fait des choses affreuses. Et maintenant, je dois vivre avec tous les jours.
Je me couche, j'en fais des cauchemars. Je me lève, j'y pense. Je ne peux pas y échapper.
Il y a une question qui m'intéresse, c'est est-ce que les slashers, ils sont faits pour ne pas être aimés? Ou alors, en fait, est-ce que on les aime plutôt bien, on a envie que... Est-ce qu'on tient avec eux, en fait
Les assassins, tu veux dire?
Les assassins, ouais. C'est-à-dire, ouais. Jason, est-ce qu'on l'aime bien ou on sait pas? Enfin, tu vois...
Bah, de plus en plus, situé, en fait, c'est un genre ultra opportuniste, donc ça, il faut pas l'enlever. C'est vraiment un genre qui est fait pour se faire de l'argent. Exactement comme la Blaxploitation avec les Noirs américains. Le slasher, c'est pour les ados. C'est faire rentrer de l'argent avec tous les ados qu'on a dans notre pays. Il faut qu'ils donnent de l'argent. Quoi. Et en général, c'est eux qui vont aller en effet voir ces films parce que ça s'adresse à eux. C'est eux les héros, c'est eux les victimes. Donc il faut y aller. Quoi. Ensuite, j'ai oublié ta question remarque. Je voulais rebondir justement là-dessus.
La question que je viens de poser, ouais. En fait, quand tu regardes le film, est-ce que tu t'attaches au personnage, au slasher, c'est-à-dire est-ce que tu t'attaches à Jason?
Oui, ouais, d'accord.
Et t'as envie qu'il parvienne à ses fins, t'as envie qu'il bousille tous ces ados à la con, là. Ou alors tu t'es plutôt du à vouloir qu'il lui arrive des bricoles.
Alors chronologiquement, en fait, t'as évidemment, t'es pas du tout pour l'assassin. Parce que voilà, c'est une figure, c'est une ombre, c'est une silhouette qui prend forme au fur et à mesure et qui t'angoisse quand même. Et puis tu t'attaches quand même au moins un personnage qui est peut-être l'héroïne ou le héros, et parce que c'est un peu lui le mieux cerné, le plus intéressant à suivre. Donc sinon tu te seras emmerdé, t'auras arrêté le film. Donc ce que tu continues, c'est que tu t'attaches quand même au moins à un de ces personnages là. Par contre, au fur et à mesure des décennies, on va parler par exemple de Jason, parce que le facteur Jason, c'est intéressant. Le premier film, d'ailleurs, c'est pas Jason, c'est sa mère qui tue les jeunes. Et le deuxième, troisième, quatrième, je crois que c'est au bout du troisième, je crois qu'il a enfin son masque de hockey, ou du quatrième. Mais c'est une figure qui est ridicule, hein, qui est ratée. Quoi. Donc là, si tu veux, heureusement qu'il y a les films sont encore un peu sérieux pour que les victimes soient intéressantes. Sinon, tu décroches. Mais ce qui est intéressant avec la série, c'est que plus les films deviennent mauvais, et paradoxalement, plus la figure de Jason est intéressante. Plus elle est iconisée, elle est statifiée, vraiment, elle est flippante. D'ailleurs, il prend de plus en plus physique, je pense qu'il a une doublure de plus en plus musclée, tout simplement, quoi. Et je pense que l'héritage de tout ça, c'est un film qui fait vraiment rigoler, c'est La fiancée de Chucky. Alors dans La fiancée de Chucky, c'est les poupées qui tuent, mais souvent c'est pareil, c'est des petits jeunes, et puis voilà, enfin, c'est les deux poupées qui se mettent à tuer les jeunes. Sauf que là, ce qui est drôle, c'est qu'on s'attache beaucoup plus aux poupées, qui sont beaucoup plus marrantes, qui ont de l'esprit, qui parlent, et là tout d'un coup, il y a un retournement, c'est exactement comme les jeunes. Enfin, les jeunes sont complètement cons, et ça c'est vraiment voulu par James Isaac. Du coup, la figure du meurtrière, comment elle les tue, c'est super drôle. Justement, la mise à mort de ces jeunes, elle est ultra drôle, elle est à la fois surréaliste et romantique.
Alors, je vais faire un plan de coupe, comme on dit au cinéma, pour que Yves-Marie puisse monter.
Oh merde, c'est moi qui vais monter ça.
Moi, j'ai encore une question.
Ah ouais, mais attends, oui. C'est parce que j'y pense. Ah oui, c'est toi qui vas monter.
Ah putain.
Ah oui, c'est toi qui vas monter. Attends, ouais. C'est bon, moi j'ai. Attends.
Le mec, il aurait. T'as vu? Je le trouvais trop décontracté. Ouais. T'étais en décontracté, tu me parles de trucs, OP de refoulé, tout ça.
C'est toi qui vas. C'est toi qui vas monter, mon gars.
Attends. La moitié des trucs que tu dis, tu les as déjà dit dans l'autre partie.
Bah ouais, alors fais gaffe, enfin, te répète pas.
Sérieux?
Bah ouais.
Ah merde.
Putain. Je sens qu'il va y avoir la musique.
Ah oui, film d'horreur, oui, oui. Tout n'est pas... L'exorciste, pardon, ça n'a rien à voir.
Oui, non, ça n'a rien à voir.
Il parlait c'est marrant, je tape film d'horreur, je tombe sur l'exorciste. C'est,
Parce que Yves-Marie parlait de musique, moi, j'aime beaucoup de Tubular Bells de Michael Field.
Oldfield, ouais.
Vous aimiez torturer vos victimes?
J'adorais ça. C'était un jeu. Pour une fille, c'est très effrayant de subir ce genre de choses, d'avoir un couteau sous la gorge. Ce que je recherchais, c'était une sensation de pouvoir. Le pouvoir de tenir la vie de quelqu'un entre ses mains. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que d'avoir le contrôle absolu sur la vie de quelqu'un.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, c'est vrai que c'est chiant, quoi. Et si on faisait un quiz? Tu dis des noms de films, on dit slasher, pas slasher.
Ah ouais, tiens, très bien.
Allez.
Ouais, vas-y, voilà,
c'est une bonne idée, ça. Je vais faire mon plan de coupe. Radio Libertaire. Comment je dis déjà? Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui au sous-genre du slasher, avec Derek Wolfenden, spécialiste du cinéma, tout simplement. Yves-Marie Mahé, spécialiste du cinéma, réalisateur, et notre grand témoin, Christophe Vaillant, qui est, je pense, amateur de ce genre. Christophe, peux-tu te présenter?
Je peux me présenter, mais
tu peux lâcher ton portable et t'intéresser un peu à ce qu'on vous raconte.
Je peux me présenter, mais je pense pas être vraiment un amateur du genre.
Bah, fais-le croire.
Ah, ok, d'accord. Je veux bien essayer de le faire croire, mais je vais avoir du mal parce que. Je peux poser la question qui me venait là. Est-ce que ce sont des films qui sont faits pour faire peur réellement? Parce que moi, j'en ai vu plein des films comme ça quand j'étais jeune. J'ai vu plein de films Vendredi 13, des machins comme ça. Bon, c'était pas très angoissant. Donc, ma question, c'est est-ce que c'est vraiment fait pour faire peur finalement?
Bah, le but, je pense que oui. Parce que c'est vraiment le jalon d'essai des réalisateurs qui viennent un peu de la télé ou. D'ailleurs, il y en a beaucoup d'Angleterre. Et qui font leurs preuves. Derrière, t'as aussi des cinéastes asiatiques qui ont fait leurs premières preuves, soit dans les films d'action, bon, un peu bas de gamme, par exemple, soit c'est le film d'horreur avec. Donc c'était aussi pour montrer aux Américains, regardez, si je peux vous faire peur ou je peux vous faire rire, c'est que vous pouvez me donner encore plus de pépettes pour faire des films plus ambitieux. C'est vraiment le. C'est là où je dis que c'est vraiment une sorte de terre très bizarre, à la fois opportuniste, à la fois un peu expérimental où voilà on. Young Friended, c'est vraiment un film expérimental. C'est plein de questions qui sont vraiment intéressantes. En tout cas, dont le cinéma expérimental se pose exactement les mêmes questions que ce film-là. Et du coup, oui, ça c'est fait. Pour faire peur, mais avec des risques aussi. C'est-à-dire, t'as souvent une petite production, c'est souvent mal, pas très bien géré par les distributeurs, etc. T'as la question de la censure qui est souvent là aussi. Ça, donc t'as quand même les mains extrêmement liées. Quoi. Mais dans l'idéal, hein, bah, ce serait un vrai petit bijou fait par un seul talent et je suis sûr que ça pourrait vraiment te faire peur.
Moi j'ai une question par rapport à la religion. On sait tous que s'il y a des êtres pervers et vraiment dégoûtants, ce sont les prêtres, les genres comme ça, les imams. Et est-ce qu'il y a des slashers avec des personnages religieux comme ça?
Au moment où le verdict est prononcé, Irène fait une prière.
Je pense encore aujourd'hui, même si ça peut sembler bizarre, que Dieu ne m'en veut pas. Je sais que Dieu est toujours là pour moi. Tout ce que je le suis grâce à Dieu. Et j'ai toujours su que Dieu me dirait comment agir.
Même pour les meurtres?
Je pense que oui. Même si c'était ma décision au final. Mais il est toujours là, avec moi.
Alors, c'est une bonne question.
Les sectes, peut-être.
Plus de sectes, ouais, ouais.
Mais religieux, moi, c'est plutôt le... cet aspect-là.
Si, tu dois en avoir. Je sais que dans les giallo, t'en as. Non, mais tu dois, là, comme ça, ça me vient pas, mais ouais, non, mais tu dois forcément en avoir. De toute façon, t'as tous les corps de métier qui sont des tueurs, t'as le flic.
Lorsqu'il embarque les deux jeunes filles dans sa voiture de fonction, elles ne se doutent pas encore que l'officier de police les emmène vers leur dernière destination, dans les marais des Everglades.
T'as même le proviseur.
T'as un enfant, une fois que j'ai vu un film, c'est l'enfant, finalement, le...
Ouais, ça c'est très rare, mais ils sont assez traumatisants ceux avec les enfants en général, hein, qui s'occupent de ça. Mais t'as tous les corps de métier, je t'assure.
Et qu'est-ce qu'il y a comme slasher avec des personnages, des tueurs vraiment très, très singuliers, très étranges Qu'est-ce qui devient? Des trucs vraiment hors normes, quoi.
Alors non, le film qui me fait vraiment rigoler, alors c'est pas le tueur en fait, c'est plutôt l'arme du crime qui me fait rire. C'est en fait une canne à pêche.
And the one fisherman who's the most unique fisherman of them all. The master fisherman.
Là, on est vraiment dans les années 80, fin 80, c'est l'époque trauma et c'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est drôle, mais c'est intéressant parce que les morts sont quand même bien filmés et c'est complètement absurde. Et alors là, le défi, c'est pas de te faire peur, mais je crois que c'est vraiment de te faire rire. Et d'ailleurs, tu regardes ça au début, t'es perplexe et après, mais t'exploses de rire comme une bombe à retardement. Boum! Et c'est vraiment magnifique. Enfin, voilà, c'est aussi le genre où tu peux faire ça, tu peux te permettre de faire ça, quoi.
Et comment ça se passe avec une canne à pêche, comment...
Bah en fait ils ont grossi, je sais pas comment on appelle ça, là au bout de la canne là.
L'hameçon.
Ouais mais c'est avant l'hameçon, c'est une sorte de...
Le moulinet.
Ouais ça doit être ça.
Le truc là ouais.
Non, le sorte de petite bouée tu sais, et en effet après...
Le flotteur. L'hameçon,
voilà le flotteur, t'as un flotteur énorme, hein. T'as vraiment un flotteur énorme. On s'en fout de l'hameçon, enfin de la passe, c'est vraiment l'hameçon ensuite est sous le flotteur, et voilà, c'est comme des petits couteaux si tu veux quoi. Mais après, c'est la manière dont c'est envoyé, et à un moment, t'as un combat de canne à pêche, mais c'est juste inimaginable, comme par hasard, il vit super bien du premier coup, et puis t'as les deux qui se tirent comme ça, l'un sur le ponton et l'autre sur sa barque, et c'est complètement absurde, et c'est hilarant, mais vraiment c'est hilarant.
Comment il s'appelle ce film?
C'est Blood Hook.
Blood Hook.
Alors j'ai oublié le nom du réalisateur, mais c'est vraiment fin 80.
Ça fait une trauma, c'est ça, produit par trauma?
C'est proche, mais je crois pas justement que c'est une production trauma, mais en tout cas ça s'en inspire, c'est on dans les mêmes eaux, quoi. Voilà, ça, je vous le conseille.
Ce que j'ai fait, je ne sais pas si c'est bien ou mal. C'est trop tard pour se faire un avis aujourd'hui. Mais au moins, ils n'ont pas à souffrir. Ils n'ont pas à souffrir après m'avoir vu tuer leur mère. Ils n'ont pas à vivre avec cette histoire atroce. Ils sont bien mieux maintenant. Au paradis.
La question qui m'intéresse, c'est est-ce que les slashers, ils parlent pas souvent, enfin on les entend jamais parler, quoi.
Ah si, ça arrête pas de jacasser, mais pour dire de la merde comme nous, là tu vois, nous, ça veut dire qu'on va se faire buter dans une logique des slashers.
Ils ont des voix douces en général.
Ah non, il y en a, ils gueulent, regarde, il y en a que t'es content qu'ils clament, parce qu'ils gueulent trop, quoi. T'as des grandes gueules et tout, qui passent en premier souvent.
Ah oui, non, mais je veux dire, les slashers, les tueurs.
Ah, ils parlent pas, non, ça c'est sûr que...
Jason, moi j'ai jamais entendu parler.
Ah non, il parle pas, lui.
Jason.
Non, il fait...
Jason, c'est Massacre à la tronçonneuse.
Non, Jason, c'est Vendredi 13, c'est la suite.
Ah, c'est Vendredi 13, ouais. Pardon.
C'est Leatherface, Massacre à la tronçonneuse.
Ah, il parle pas trop, lui.
Non, il fait... Pareil.
Mais c'est la tronçonneuse qui fait ce bruit-là.
C'est Jason qui s'en prend plein la gueule tout le temps, c'est Jason.
Mais il est mort-vivant, donc il faut montrer qu'il est mort-vivant, c'est-à-dire qu'il en prend plein la gueule, il explose, il fait tout ce que tu veux, il renaît quoi, à chaque fois.
Ouais. Et en fait, c'est... qu'est-ce qu'on s'en fout du slasher, en fait?
Oui, bah, c'est un prétexte pour parler de cinéma, mais après, voilà, quoi.
Oui, c'est ça, quand il disait, est-ce que ça fait peur, en fait, c'est surtout, j'ai l'impression que en fait, ça... les films sont rythmés, quoi, du coup, c'est pour ça qu'on s'emmerde pas. Mais en fait, c'est plutôt ça qui capte l'attention que le fait qu'il y ait des morts ou pas.
À tel point que j'avais même fait mon mémoire à la fac sur les psychopathes, quoi.
Ah oui, d'accord.
Ouais, donc voilà, j'avais fait un chapitre sur le slasher.
Parce que là, t'es en train de dire un truc intéressant sur le psychopathe. Les slashers sont psychopathes?
Bah, ça joue sur la sérialité du psychopathe. Enfin, il y a plein de formes de psychopathes. T'as le psychopathe qui peut commettre qu'un crime, voire deux, de manière très éloignée dans le temps. Et t'as le serial killer, qui est peut-être plus connu, parce que c'est lui qui fait le plus vendre, parce que du coup, lui, il tue plusieurs personnes. Donc tu peux même créer une structure narrative plus alléchante. Donc plusieurs morts, plus facile à rythmer aussi au niveau des mises à mort. Et donc plus flippant pour le spectateur. Et le slasher, ça qui est intéressant, c'est une sérialité de meurtre. Donc même si la figure est pas du tout traitée de manière psychologique. Enfin voilà, ouais.
Quand je posais la question, c'était psychopathe dans la définition américaine. Hein. En France, un psychopathe, c'est quelqu'un juste qui sait pas se retenir, qui pète les plombs comme ça, qui casse la gueule à tout le monde, qui a pas. Là, on est plus en train de parler d'un pervers, en fait. C'est un pervers, le slasher.
Tu peux même pas dire ça. En fait, c'est tellement une figure de croque-mitaine fantastique. C'est comme si tu disais le grand méchant loup, c'est un pervers sexuel. Alors, ouais, mais là, c'est une question d'interprétation. Non, mais tu peux interpréter comme ça. Ça te regarde que toi. Ou selon le film que tu vas interpréter, et si tu arrives à développer, carrément, je suis pour. Enfin, il n'y a pas de souci. Mais de manière abstraite. Comme ça, la figure dans le slasher, le psychopathe, on s'en fout de sa psychologie. Ou si on s'en fout pas, c'est juste un petit traumatisme qui est un alibi narratif pour le faire s'énerver contre des jeunes et les punir, si tu veux, les tuer un à un, quoi. Mmh. Et le faire que ça dégénère, quoi. Voilà, des fois, il y en a certains, ils utilisent un trauma. Mais sinon, c'est là où c'est intéressant, ce cinéma-là, c'est que... Enfin, on en a marre de la psychologie, de l'acteur studio et compagnie, et là, on s'en passe complètement, quoi.
Je crois avoir vu un vendredi 13 ou un massacre à la tronçonneuse, je les confonds tout le temps, où on voit en fait qu'il a été maltraité par sa mère et tout ça, où il y a un petit bout d'histoire qui nous fait comprendre que pourquoi il est taré en fait.
Elle a commencé à me détester quand ma sœur est morte. Elle n'a jamais été là pour moi après ça.
You know, I've always wanted her love.
Moi, j'ai toujours cherché son amour,
I've tried
son affection.
For a long time.
J'ai essayé pendant longtemps.
And it's not there, it's not going to happen.
Ce n'est jamais venu. Elle m'a rejeté.
Kind of like, sorry, why deal with it? She knows that,
j'étais son fils, mais elle ne m'aimait pas.
Then I think that
elle était sans doute une charmante compagne, mais elle n'était pas capable d'élever des enfants. Je crois que certaines personnes ne devraient jamais être parents.
Donc on s'en fout peut-être pas tout le temps de la psychologie du slasher.
Ouais, mais si tu remarques bien, souvent c'est le point faible de ces films-là. Dès qu'ils se mettent à avoir l'ambition, la prétention clinique d'expliquer les méfaits, là, le film, il part en sucette. Et alors, il y a un film que je trouve assez réussi.
C'est un cinéma psychologique, quoi.
Ouais, mais ça lui va pas, ce cinéma-là. Il y a un film pourtant réussi presque de tout le long, ça s'appelle Creep, c'est un film anglais qui est très intéressant. Il y a même une forme de critique sociale au fur et à mesure du film. Mais dès le moment où on explique pourquoi c'est lui le tueur et pourquoi il fait ça, on explique les raisons de ses méfaits, là, le film, il est flingué. D'accord. Mais vraiment, c'est exactement
en fait,
comme
si chosifier. En fait, ça doit être une chose, le slasher, pas une personne.
Ouais, c'est pour ça qu'Unfriended, c'est un film génial, parce que finalement, il explique pas tant que ça, ça reste un peu fantastique, le film, il s'en fout. Et du coup, tu restes vraiment avec ses victimes. Et ce qui est intéressant, c'est l'issue finale du film, qu'on va pas raconter si vous voulez voir le film. Mais l'issue finale, tout d'un coup, elle change la donne totalement, quoi.
Ah oui, mais c'est vrai que ce film-là, je m'en rappelais plus, mais... Enfin, je m'en rappelais plus de la fin, il m'avait passionné, Unfriended, mais c'est vrai que... En fait, ce qui t'intéresse, c'est de savoir pourquoi la personne qu'on cherche à venger s'est suicidée, en fait.
Ouais. C'est tout ça, ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Et l'issue finale est super intéressante et est simple, pourtant. Et pas du tout, c'est pas tiré du tout par les cheveux, quoi.
Bon, il y a quand même un risque dans ce que tu dis, c'est que... J'ai écouté la radio cette semaine, et j'ai entendu Marine Le Pen expliquer que... il était honteux de vouloir comprendre... les gens qui commettent des attentats, que on n'a pas à les comprendre, c'est juste des monstres, des choses, etc. Et du coup, je me dis, peut-être t'es pareil en fait, tu veux pas comprendre les slasheurs, t'es exactement dans la même.
Facho.
Tu veux pas comprendre que ce sont des personnes qui ont peut-être souffert.
Ouais, sûrement, ouais, si
Putain, c'est une mission de facho, là. Est-ce qu'il y a des cas de slasher est-ce qu'il y a des cas de rédemption dans le slasher, hein, des slasher qui, ouais, qui se rendent compte qu'ils déconnent et que du coup ils, bah, ils arrêtent et puis ils deviennent bons, puis voilà.
Ouais, qui comprennent, qui se disent, oh, en fait, je, qu'est-ce que je fais là, je...
Alors, t'en as un qui participe de qui est, c'est pas un slasher, mais ce qui est intéressant dans ce film là, c'est qu'il est vraiment l'âge d'or du slasher. C'est je crois que c'est Psychose 2. Et donc la construction est très proche. Là, ils assument beaucoup plus le côté répétitif. Et en fait, Norman Bates, donc Anthony Perkins, est victime. Et là, dans celui-là, il est victime et on essaye de lui faire porter le chapeau de meurtre qu'il aurait commis, alors que c'est pas lui qui les a commis. Mmh. Et comme il est faible, fragile, il vient de sortir de l'HP, etc., il est de plus en plus convaincu qu'il a commis ses crimes, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que ses anciennes victimes ou parents de victimes, dans leur justement regard fascisant, etc., il faut le punir coûte que coûte, alors qu'il a été puni légalement, puisqu'il est sorti de l'HP, etc., et ben en fait, la dernière partie du film, il retombe. Ouais. Voilà, dans les meurtres. Voilà, il le recrée, en fait. Il recrée sa fonction meurtrière.
Mais même le premier, en fait, Psychose, à la fin, il y a 10 bonnes minutes, enfin, ou 5 ou 10 bonnes minutes d'explication de pourquoi il a commis les trucs. En le revoyant, d'ailleurs, il y a un truc marrant. Il y a un moment, il y a le shérif qui dit, mais au fait, pourquoi il se travestissait, c'est un PD. Et le mec dit, non, c'est pas parce qu'il y a un long passage pour expliquer qu'il n'est pas homosexuel, que le fait qu'il se travestisse n'est pas si synonyme forcément de ça. Je trouve ça vachement intéressant. Pour un film des années 50, quoi.
Ouais.
Ce serait intéressant, hein, slasher qui se remet en question. Enfin, moi, ça me fait penser à Neil, Alexander Neil, qui était professeur, enfin, instituteur. Quand même, enfin, des gens un peu dangereux. Et un jour, il mettait une fessée à un enfant. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire une connerie. Et il a décidé d'arrêter de travailler pour l'éducation nationale, quoi. Donc, peut-être que...
Mais peut-être c'était plus lui le problème que l'éducation nationale. Enfin, l'éducation nationale lui disait pas forcément de fesser les enfants.
Si, en fait, c'est un critère. Hein, au début du XXe siècle, en Grande-Bretagne, mais aussi en France, en fait, un instituteur était un bon instit s'il était sévère et s'il frappait les enfants. Bon, bah voilà, on disait que c'était quelqu'un qui cadrait, quoi. L'autoritarisme, c'était un gage de qualité.
Sérieux, quoi.
Ouais. Donc si, bien sûr que c'était quelque chose qui était recommandé dans la formation, dans la tradition.
À ce désert affectif, il faut ajouter les abus sexuels commis par un voisin sous le regard indifférent de sa propre mère. Le souvenir de ce pédophile hantera le tueur toute sa vie.
À chaque fois que je tuais quelqu'un, je voyais son visage. À chaque fois que je faisais du mal à quelqu'un, ce n'est pas la victime que je visais. C'est lui. Je hais cette personne qui m'a fait tant de mal et je suis devenu moi-même cette personne que je détestais tant. Si quelqu'un m'avait tué enfant, à l'époque où j'ai subi tous ces sévices, j'aurais été heureux. Je n'aurais pas eu à vivre la vie que j'ai eue.